Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Lamballe pour découvrir une entreprise dont je ne soupçonnais pas les qualités et que je vais avoir le plaisir de vous faire connaître. Il s'agit de la société De La Coperle, qui est une coopérative française de production de porc créée en 1966, il y a donc 58 ans, qui a 7700 salariés et plus de 3000 éleveurs adhérents et compte plus de 30 sites en France. À l'international, elle possède 10 bureaux et 3 sites industriels. Coperle est organisée en filière avec 9 branches spécialisées et interconnectées, avec une capacité de production de 10 000 porcs par jour pour le site de Lamballe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu sur le site historique Coperle à Lamballe par l'équipe de la branche environnement, qui, vous allez le voir, ne manque pas d'originalité. Sujet de ce podcast avec Franck Porcher, directeur de la branche environnement, et Anne-Julie Plouvier, responsable marketing et communication de cette même branche. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors, première question, comment le volet environnement a démarré chez Coperle en 1991, sachant que ce qui est évident aujourd'hui en 2024 ne l'était pas du tout il y a 33 ans?
Oui, effectivement, en 80, oui, effectivement, l'aventure environnement du groupe Coperle a effectivement démarré dans les années 90-91. N'a pas démarré par l'envie de gérer de l'environnement, mais a surtout été mis en avant par le fait que les lois européennes sur les directives nitrates et la protection des rivières en Bretagne a été en fait instaurée dès les années 91. Donc pour Coperle, en fait, c'était juste un passage obligé, un droit à produire. C'était en 91, l'environnement était juste une action à mener auprès de nos adhérents pour qu'ils puissent préserver leur droit de production. Hein, puisque les rivières avaient des problèmes de nitrate et que la production n'était pas assez contrôlée à l'époque et il fallait que des efforts soient faits sur la gestion des effluents.
Alors il y avait une obligation de résultat et c'était à vous de trouver les moyens de gérer cet enjeu en fait.
Ah bah c'était à nous de trouver des solutions, hein, où on trouvait des solutions pour que nos adhérents puissent continuer à produire, ou alors il fallait réduire les capacités de production pour répondre à cette norme européenne.
Alors, la branche environnement n'existait pas à l'époque chez Coperle. Vous l'avez créée. Il fallait tout faire de but en blanc, de A jusqu'à Z. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver les marchés qui vous ont permis de valoriser toute cette partie de la transformation de l'environnement, en fait? Parce qu'il fallait aussi que le modèle économique soit viable.
Alors, le modèle économique, faut faire attention, parce qu'effectivement, l'environnement coûte très très cher, a coûté très cher à nos adhérents, coûte très cher à la coopérative, et qu'au-delà de l'économique, au premier abord, il fallait surtout trouver un débouché et trouver un système qui permettait d'écouler les effluents hors de la Bretagne, qui était en zone d'excellence structurelle, pour pouvoir en fait permettre une fois de plus conserver le droit à produire. Donc, par contre, il y a eu un choix très stratégique de fait au niveau du groupe. Ça a été de partir du principe que le coproduit, qui était une problématique environnementale, devienne une valeur ajoutée. C'est-à-dire, on ne se débarrasse pas d'un produit excédentaire en Bretagne pour le mettre dans des zones pouvant recevoir ces mêmes matières. Mais on a regardé très vite quelles étaient les activités ou quelles étaient les cultures en France qui pouvaient et qui avaient besoin de ces fertilisants que nous, on avait en trop.
Alors, vous parlez de coproduits. Je précise, c'est en un seul mot. Ça consiste en quoi? Parce que c'est au pluriel, sous-entendu coproduit.
Alors, coproduit, c'est important pour nous parce que, en fait, dans notre équipe et depuis plus de 30 ans maintenant, j'ai envie de dire globalement, le mot déchet n'existe pas. Le déchet... En fait, la philosophie d'entreprise, c'est le déchet, c'est un problème, c'est comment je m'en débarrasse et combien ça coûte. Donc c'est toujours dans une dynamique négative d'être dans cet esprit-là, parce que si vous vous débarrassez de quelque chose, ça coûte fatalement. Mais pour les équipes, ça a toujours été le coproduit. Ça veut dire que la viande est le produit de la Coperle, de nos adhérents, hein, puisqu'on vend des produits pour la nutrition humaine. Mais production porcine, elle a, quand on prend un cochon, par exemple, qui est transformé sur le site de Lamballe, eh bien, il génère ce qu'on appelle un coproduit. C'est-à-dire une partie de l'animal qui n'est pas consommée par les humains. Et en fait, quand on regarde tout ce qui tourne autour du cochon, on dit dans le cochon, tout est bon. Et on se rend compte tout simplement que le coproduit, c'est-à-dire tout ce que nous, on ne consomme pas en tant qu'humain, devient une valeur ajoutée pour l'entreprise et non pas un déchet à éliminer.
Alors, qu'à appliquer, comment traitez-vous la matière organique entre l'amont, le lisier, l'eau et l'aval avec tous les composants que vous venez d'évoquer?
C'est simple. Aujourd'hui, le monde animal est aujourd'hui par ses déjections, puisque vous me parlez de fertilisants organiques, eh bien, cette fameuse déjection en excédent structurel est ni plus ni moins qu'une ressource indispensable pour le monde du végétal. Donc, fort de cette information-là, on a travaillé sur les secteurs pouvant recevoir ces matières et on a développé auprès des viticulteurs, des maraîchers, des arboriculteurs, toute une gamme d'engrais naturels à partir des déjections animales qui permettent à ces cultures végétales de s'approvisionner en matière organique qu'elles n'auraient pas aujourd'hui s'il n'y avait pas de production animale à côté d'elles.
Et vous avez développé ça à l'échelle de la Bretagne ou au-delà de la Bretagne?
Alors, par principe, au-delà de la Bretagne, surtout pas en Bretagne, puisqu'on a un excédent structurel. Donc, si effectivement on n'était pas en excédent structurel, on n'existerait pas. Il suffirait d'épandre comme épandre les déjections sur les terres. Évidemment que le secteur a commencé sur un secteur français, sur des secteurs en fait simples. Bretagne, beaucoup d'élevage, très peu de production végétale. Et en dehors, l'autre reste de la France, c'est beaucoup de végétal et très peu d'animaux. Donc on a développé en priorité le secteur français, parce que 80% de nos ventes se font sur le secteur de la France. Et puis on a 20% aujourd'hui qui sont faits dans une quinzaine de pays dans le monde aujourd'hui.
Anne-Julie m'a expliqué le principe de la production vapeur. Comment en êtes-vous arrivé à produire de la vapeur? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce développement?
En fait, c'est un enchaînement de logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez dans la dynamique de valorisation, vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Et on a une philosophie en fait, qui existe depuis des années, c'est de dire qu'à partir du produit de la viande, on génère ce fameux coproduit qui devient une matière première pour l'environnement. La matière première pour l'environnement, qui ce coproduit régénère un coproduit, et de fil en aiguille, chaque coproduit génère un produit et qu'en cascade, on a mis en place un tas d'activités environnementales, dont l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que dans les mêmes années où on construit nos outils de protection de l'environnement, on va dire, aussi bien pour les élevages que pour l'industrie, eh bien, on se rend compte qu'il y a un tas de coproduits autour de nous, des emballages, il y a du bois, des matières organiques qui sont gérées par nos sites de production, qui sont souvent d'ailleurs collectés par des entreprises extérieures, on se dit à un moment donné simplement que il est temps qu'on prenne le sujet à bras le corps pour nous et que au lieu de faire partir et payer pour faire sortir de l'entreprise des ce qu'on considère comme des déchets aujourd'hui par des autres, eh bien on s'est dit il y a de la valeur ajoutée et on s'est mis en fait à travailler notre propre matière organique et autour de nos outils et on a commencé par générer donc depuis les années 2000-2002 tout un site de production d'énergie vapeur à partir d'énergie renouvelable tout simplement.
Alors en fait, vous êtes suivant le principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui. Vous l'appliquez à grande échelle.
On l'applique et puis c'est souvent une phrase qui est prononcée sans la mesurer, mais il faut vraiment comprendre qu'effectivement, on dit le cochon, tout est bon. Mais rien ne se perd et c'est vraiment important de penser à ça parce que chaque élément qu'on pense être un élément perdu est au contraire une vraie valeur ajoutée. Et c'est là qu'il faut travailler, que les ingénieurs travaillent fort. Sur 200 personnes, on a 20 ingénieurs R&D qui travaillent en permanence pour trouver et des nouvelles solutions et des technologies pour que nos adhérents puissent en fait capitaliser et trouver des soutiens économiques aussi pour l'activité. On se bat dans un monde du porc qui est mondial, donc c'est très compliqué. On n'est pas les plus gros producteurs au monde, mais par contre on s'attache à apporter à nos adhérents des solutions environnementales ou technologiques qui leur permettent d'avoir un petit plus qui puisse être à terme une valeur ajoutée.
Vous ne subissez pas la résultante de ce que vous faites, mais vous transformez ça en valeur en fait. Tout ce qui est produit devient une valeur en fait.
Disons, on part du principe que si on attend, on attend le dernier moment pour faire les choses quand on vous les demande, ou si vous commencez à répondre à des attentes ou des choses qu'on vous demande, il est déjà trop tard. En fait, dans l'idée, c'est de dire anticiper, créer des choses que les gens n'attendent pas et mettre à disposition des outils, des solutions qui sont un petit peu avant-gardistes, en fait, j'ai envie de dire. Toujours avoir, on dit toujours avoir un pas d'avance, hein, pour que la primeur des développements technologiques soit au capital de nos adhérents. Tout simplement.
L'innovation d'une façon générale à tous les étages.
À tous les étages, sans arrêt, ça n'arrête jamais. On a aujourd'hui, voilà, il y a des comités tous les mois. On se réunit systématiquement pour trouver des idées en permanence et avoir cette dynamique de développement au sein de l'entreprise.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la vapeur. Il y a d'autres sources d'énergie que sont la méthanisation et le carburant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouveaux développements?
Pourquoi on va commencer par la première, on parle de la méthanisation. La méthanisation, pourquoi? C'est parce qu'on est aujourd'hui producteur de cochons, de porc, et que les déjections sont une matière à valoriser, et que dans un schéma aujourd'hui aussi de protection de l'environnement par la décarbonation, on a travaillé sur le modèle qui consiste tout simplement à collecter les déjections animales le plus vite possible auprès des animaux, afin qu'il n'y ait pas de stockage dans des fosses et d'émissions et d'émanations de méthane, de CH4. Et puis, grâce à nos technologies environnementales, c'est-à-dire production d'énergie renouvelable, on a pu combiner et les déjections et les énergies pour créer un méthaniseur aujourd'hui qui est certainement le plus gros d'Europe, sans épandage. Je précise bien sans épandage, c'est-à-dire qu'on valorise tout ce qui rentre, tout ce qui sort, pour créer de la valeur auprès des gens qui en ont besoin. Donc voilà, c'est une machine qui fait 7,7 mégawatts et qui injecte près de 50 gigawatts de gaz par an. Donc c'est une très belle machine. Et puis le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est les carburants. Parce qu'une fois de plus, on est dans un schéma environnemental, il faut protéger nos outils. Et quand dans les années 2010, on se rend compte qu'il y a une activité qu'on n'a pas forcément pris en compte dans l'environnement, et comme on est en réflexion permanente, on se rend compte que dans les eaux usées de nos installations, on a des graisses, des eaux grasses, on va dire, des graisses d'égout, on va dire, pour faire la différence entre une graisse et noble, j'ai envie de dire, et une graisse d'égout, et que ces graisses-là, en fait, sont des problèmes un problème pour l'environnement, et qu'il va falloir s'en occuper aussi. Et donc, on travaille avec des équipes, on rencontre des entreprises, et puis on fait le pari en 2010 d'être certainement les premiers aujourd'hui au monde, je pense, à partir des égouts des gens, des graisses des égouts, en fait, être capable de produire un biocarburant qui va substituer complètement le diesel des voitures ou des camions. Alors voilà, c'est pas fait au départ pour le carbone, parce que c'est la protection de l'environnement, mais ça a été fait aussi pour la valorisation. C'est un coproduit, il peut poser à terme un problème si on le considère comme un déchet. Par contre, si on le regarde comme une potentielle valeur ajoutée, il devient aujourd'hui un carburant qu'on peut mettre dans une voiture, dans un camion, sans aucune modification des moteurs.
Alors, il ne s'agit pas de concurrencer totale, bien évidemment, mais toujours de pouvoir avoir un circuit vertueux au sein de l'entreprise.
Complètement. Notre métier, nous, on n'est pas producteur d'énergie et de carburant. On est là pour aider nos adhérents. On est là pour leur apporter des solutions. On est là pour leur garantir le droit à produire dans les années qui vont venir. On est là pour les sécuriser à tout point de vue, point de vue environnemental, mais aussi réglementaire. La stratégie carbone est quelque chose de très, très, très important aujourd'hui, que les gens n'ont pas forcément compris. Mais c'est une loi, une loi qu'il faut absolument appliquer. Et ça, d'ici 2050. Donc, il faut que nos adhérents, soient informer déjà, c'est ce que l'on fait, et surtout et des outils à leur disposition pour répondre à cette stratégie carbone en 2050.
Ces carburants, ils nous serviront effectivement à alimenter les camions de Coperl, et ils nous permettront aussi d'alimenter les tracteurs des adhérents. C'est pour ça que Franck parle des adhérents, des éleveurs, mais eux aussi doivent avoir des solutions pour décarboner l'élevage. Et pour décarboner l'élevage, il faut décarboner le carburant d'un tracteur, d'une moissonneuse-batteuse qui a plutôt tendance à consommer comme machine. Et avoir notre propre biocarburant qui décarbone, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un gasoil de l'ordre de 80%, c'est une vraie solution qu'on met à leur disposition.
Donc, bel enjeu, mais c'est une nouvelle technologie que vous développez, ce principe de
production de carburant. Complètement, c'est effectivement une technologie développée par les bureaux R&D du groupe, qui œuvrent depuis 13 ans maintenant sur le programme et qui aujourd'hui sont dans l'aboutissement du projet, puisqu'on une usine de 20 millions de litres verra le jour fin d'année 2025, début 2026, donc pour produire 20 millions de litres qui seront pour couvrir complètement la flotte de nos poids lourds.
La totalité de la consommation.
Des poids lourds, on va raisonner plutôt poids lourds que voiture, parce que l'électrique a pris le devant sur la voiture, alors que je sais que pour le poids lourd, ça va être très 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 compliqué d'arriver à cette stratégie 100% électrique pour les camions, et que la transition passera par ce genre d'activité, c'est-à-dire qu'on y rêve peut-être un jour, au camion électrique, j'en sais rien, mais c'est certainement pas avant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, et que dans ce laps de temps-là, il faut trouver des solutions alternatives, et l'agriculture en général, eh bien, est encore un vecteur, et encore un atout important pour ce genre de solution, puisque effectivement on a à travers ces déchets graisseux trouvé une solution alternative au diesel en fait, mais surtout pas oublier qu'on doit aussi répondre à la stratégie carbone, donc les deux viennent de se combiner, c'est-à-dire que je réponds d'un côté à la stratégie carbone qui est obligatoire, puisque en 2050, je rappelle que 100% de la mobilité des entreprises, enfin la mobilité des entreprises doit être verte. C'est pas neutre. Hein, 100% d'énergie doit être verte. Globalement, l'agriculture doit réduire de 46% ses gaz à effet de serre. Donc, on répond à cette stratégie carbone, stratégie nationale bas carbone. Et c'est aussi une manière pour nos adhérents d'avoir à mettre dans les rayons des produits de plus en plus décarbonés. Parce que plus vous agissez pour l'environnement, c'est-à-dire ramasser les animaux avec des camions qui roulent au biocarburant, les camions d'aliments au biocarburant, les frigos au biocarburant, eh bien vous vous retrouvez avec une viande qui non seulement répond à la stratégie carbone par sa mobilité, mais devient aussi un vrai atout commercial pour nos adhérents, puisqu'ils se retrouvent avec un schéma de mise en marché de leur viande complètement décarbonée.
Oui, parce qu'à chaque étage de la fusée, il y a une production de carbone, en fait, dans la chaîne de production. En fait.
Ben, l'objectif, à chaque fois qu'on produit, effectivement, il y a des étages. Et nous, l'objectif, en fait, c'est de produire et depuis, on va dire maintenant, une dizaine d'années, de mettre en place des outils qui sont non émetteurs de gaz à effet de serre.
Alors, pour continuer à parler d'innovation, Anne-Julie m'a présenté la production de spiruline, sujet que je ne connaissais absolument pas, donc elle m'a un peu documenté sur le sujet. Il s'agit d'une micro-algue qui est dans la classe des super-aliments et qui est un nouveau domaine d'investigation. Et alors là, c'est étonnant parce que la spiruline n'a rien à voir avec l'élevage du porc.
Pourquoi Copern et pourquoi ces compléments alimentaires et cette production de micro-algues? Simplement, pour une fois de plus, c'est l'alignement des planètes, c'est aussi le travail historique de l'entreprise pour protéger son environnement il y a une trentaine d'années. Et à force de regarder tous les outils et puis de comprendre comment fonctionnait ce schéma de spiruline, on s'est rendu compte que pour être capable de faire ce genre de complément alimentaire, il fallait être doté de beaucoup d'énergie thermique, de beaucoup d'eau le plus pure possible et puis surtout beaucoup de CO2. Et donc l'idée est venue du fait que ces énergies-là, on les avait, puisqu'on a une très très grosse source d'énergie. On a surtout une station de traitement qui nous permet de produire de l'eau de qualité potable aujourd'hui sur nos installations. Et puis notre méga méthaniseur aujourd'hui est producteur de CO2. Et donc ces trois sources d'énergie qui sont la problématique majeure pour produire ces micro-algues, en fait, étaient disponibles sur le site de Copern. Et à travers ça, en fait, ça nous ouvre énormément de voies pour nos adhérents, aussi bien pour la fertilisation que la nutrition. Mais qu'en fait, on s'est doté d'un nouveau métier, en fait. On s'est doté d'un nouveau métier juste parce que Copern et ses adhérents ont eu l'audace, il y a 30 ans, de faire d'un déchet une valeur ajoutée.
Oui, mais comment est-ce que vous avez fait la connexion entre ces trois éléments fondamentaux qui permettent de faire la spiruline, et la spiruline qui est un domaine qui n'était pas du tout le vôtre, qui vous était totalement inconnu en fait.
Non, parce que en fait, c'est par les échanges. Hein. On échange avec des gens, des entreprises ou des personnes sont venues nous voir pour partager cet échange de ce métier en fait, de la production de micro-algues. Effectivement, à la base, ce n'était pas forcément notre métier. Et ces personnes qu'on voyait étaient plutôt à la recherche de ressources énergétiques pour pouvoir développer eux leur système, mais qui coûtait tellement cher qu'ils ne pouvaient pas forcément développer. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, c'est la curiosité, en fait. Et puis l'audace, une fois de plus, c'est de se dire, ben, bon sang, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas nous ? Pourquoi pas apporter une nouvelle source ? Et puis les bienfaits, surtout, on s'est intéressé surtout aux bienfaits de cette micro-algue qui va devenir certainement un des nutriments, un des plus importants dans l'avenir, dans le monde.
Important dans l'avenir. Alors, il est évident aussi que la décarbonation, vous en avez largement parlé. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, on produit par habitant, par citoyen, 10 tonnes de carbone par an. Il faut qu'on descende à 2 tonnes par an en 2050. Donc vous allez être contributeur, parce qu'il n'y a pas que les citoyens, il y a les entreprises, tout le tissu industriel qui joue sur cette diminution du carbone. Comment est-ce que vous faites pour... Alors, vous avez développé des moyens de communication, notamment la bulle que l'on a visitée tout à l'heure avec Anne-Julie. Est-ce que vous avez un rôle important en termes d'évangélisation, de transmission des messages sur cette évolution d'un métier comme le vôtre qui n'avait pas jusqu'à maintenant une bonne... Alors quand je dis jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à ce que je vous connaisse, qui n'avait pas une image très positive dans la tête de la majorité des consommateurs?
Moi, j'ai pas un message, on n'a pas un message particulier à faire passer. Nous, on est là pour servir nos adhérents. La stratégie carbone, c'est une loi, il faut la respecter. Ça va certainement, comme on dit, complexifier pas mal de choses, ça va certainement être décrié, ça va faire des marches avant, des marches arrière, mais la finalité, c'est de décarboner. On n'a pas le choix si on veut protéger la biodiversité et puis demain être là pour nos enfants, eh bien, il va falloir agir. Le groupe a tout simplement mis en place et appuyé sur cette stratégie carbone, ou là surtout, j'ai envie de dire, raccroché à sa politique de développement environnemental, puisque à l'origine, en 90, quand on commence à lancer l'environnement, c'est pas pour dire qu'en 2050, on va décarboner. C'est une fois de plus l'alignement des planètes et que l'ensemble des outils cumulés nous ont montré que la trajectoire qui était imposée aujourd'hui par l'État français était juste la trajectoire qui était prise par audace, en fait, par les adhérents du groupe. Aujourd'hui, nous, on sait que la stratégie carbone, on y répond. On sait comment y répondre. Pour notre agriculture, le modèle de production est déjà en place et fonctionne avec une décarbonation qui avoisine les 46% aujourd'hui. Donc voilà, on a le modèle, il va falloir le dupliquer. Il y a beaucoup de choses à faire, on n'y est pas encore. Mais d'ici à 2050, je pense que les outils y seront. Et puis toute l'énergie qui est autour, bien sûr. Et que surtout, pour l'ensemble des sites de Coperl, il y a une trentaine de sites effectivement en France, il y a une feuille de route. Une feuille de route avec une trajectoire à 1,5 degré, qui en fait doivent emmener l'ensemble des outils dans cette démarche de réduction d'impact. Voilà.
Mais après, après plus qu'évangélisation, je trouve que c'est important de parler de communication et de pédagogie sur ce qu'on fait, parce qu'on en a parlé quand on l'a préparé ensemble cet entretien, mais ce que fait Coperl, effectivement, ça ne se sait pas. On n'a pas vocation à prêcher la bonne parole pour tout le monde. Par contre, à expliquer ce que vous avez dit au début de cet enregistrement, mais que ce qu'on a fait il y a 30 ans, c'était pas évident, c'était pas si facile, et qu'il y a des choses à expliquer pour dire que oui, aujourd'hui, l'agriculture française, elle a des choses à dire, elle a des choses à montrer et des bonnes pratiques à partager. Ça, c'est hyper important pour nous, parce que ça, c'est un retour pour ces mêmes adhérents qui, il y a 30 ans, ont investi plus de 330 millions d'euros dans le système d'écologie circulaire dont on parle aujourd'hui. Donc il y a une sorte de retour financier, en tout cas de retour économique qui se fait dans tout ce qu'on permet d'économiser à la coopérative au sens large avec ce qui a été installé là. Et puis il y a une autre forme de retour dont on a parlé ensemble aussi, qui est un retour d'image. Les éleveurs que vous avez pu voir ce matin dans notre salle immersive de la bulle vous ont parlé de fierté. En tout cas, ont communiqué sur la fierté. Ce système d'écologie circulaire, c'est une fierté pour eux. Et dans l'écologie circulaire, il y a la notion de la boucle. Donc il y a une notion de retour vers eux. Et ce retour d'image, il est important. Si on arrive à faire passer nos messages, on arrive à expliquer qu'un éleveur sur son territoire, il va permettre de rouler décarboné, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va permettre de mettre des solutions avec la spiruline, qui en est un exemple, mais de solutions de santé et de nutrition à tous les étages, directement pour le consommateur, mais aussi demain, pourquoi pas pour le cochon lui-même et donc pour l'autre consommateur, celui qui mangera de la viande. C'est toute cette image-là de l'éleveur qui est importante pour nous à transmettre. En tout cas, on participe à cette transmission. On ne fait pas toute la transmission, mais on y participe. Et puis, l'autre enjeu de tout ça, dans cette communication et cette pédagogie, en plus de faire connaître le métier d'éleveur aux gens qui vivent à côté des éleveurs, c'est de faire connaître le métier d'éleveur auprès de ceux qui voudraient devenir éleveur. Parce qu'on sait aussi qu'un des enjeux de demain, c'est la transmission de ce savoir-là. Comment faire en sorte que ces élevages et ces métiers-là soient repris, continuent, bah, c'est en expliquant tout ce qu'on fait. Et ça fait partie de ce modèle-là.
Alors c'est évident que vous n'êtes pas des vous n'êtes pas, votre métier n'est pas de communiquer.
Le mien si,
mais le vôtre si. Mais le partager votre expérience, enfin moi je trouve ça extraordinaire. D'où ma motivation pour enregistrer ce podcast, parce que des entreprises comme vous vont faire repenser complètement le modèle écologique qu'on a tendance un peu à caricaturer dans le système politico-médiatique parisien, si vous me permettez la caricature. Donc ça me paraît quand même assez important.
Il y a un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour régler les problèmes de l'environnement, il a fallu 20 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on travaille sur les technologies, qu'elles soient aussi proches de l'élevage. L'élevage en priorité, il fallait effectivement régler ces problèmes d'environnement, mais de fil en aiguille, les normes se durcissent partout depuis des années et que les outils industriels ont aussi besoin de répondre à cette problématique environnementale. Il en est de même pour le carbone. En fait, il faut que les gens comprennent que on ne décarbone pas une entreprise de 2049 en s'attaquant au sujet en 2049 pour 2050. C'est-à-dire que la démarche environnementale du groupe Coperl, qui nécessite encore beaucoup d'investissements, va certainement durer une quinzaine d'années. C'est un développement sur 15 ans pour que, à 2040 pour nous, parce qu'on a prévu effectivement ce passage de décarbonation, non pas en 2050, mais en 2040, parce que les outils mis en place depuis 30 ans nous permettent d'afficher cette ambition. Il faut que les gens en prennent conscience. Pour l'instant, les gens ne sont pas obligés de le faire. C'est-à-dire qu'on vous dit, bientôt, il faudra faire ça. Et tant que vous n'êtes pas au pied du mur, si vous voulez, ben, vous attendez un petit peu que ça se passe, et puis on regarde un peu ce qui se passe, et puis le jour où il faut y aller, on essaie d'y aller. On a un exemple flagrant, c'est les Pays-Bas. Hein, les Pays-Bas qui, pendant 30 ans, ont triché avec l'environnement en dissimulant ou en faisant des jeux de chaises musicales avec leurs effluents. Ben, ils se sont fait rattraper par l'Europe l'année dernière. L'Europe leur a dit, à partir de maintenant, si vous n'êtes pas dans les normes, vous arrêtez votre production. Et aujourd'hui, à ma connaissance, près de 30% de la production des Pays-Bas est arrêtée. Et ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils se sont dit, aujourd'hui pour demain, ce n'est pas possible. Donc la décarbonation, elle a un côté très vertueux aujourd'hui quand on la présente, mais c'est juste, il ne faut pas l'oublier, une obligation, c'est une loi. Et que pour mettre les 35 usines, nos adhérents, tous les élevages, et apporter une vraie solution à nos adhérents pour que demain, ils aient le droit encore d'exister. Il faut bien comprendre, si on n'applique pas les normes carbone dans les 20 ans qui viennent, il n'y a plus de production, en fait, tout simplement. Parce que les taxes associées aux gens qui n'auront pas fait les efforts, eh bien, seront insupportables pour la production. Voilà. Donc, il faut bien voir ça comme quelque chose de long terme, qui à terme, par contre, à l'inverse de l'environnement, qui a coûté extrêmement cher, doit apporter des dividendes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi pour conserver le droit à produire, eh bien cet investissement doit être le tremplin pour demain créer de la valeur autour du carbone.
Ouais. Franck, merci beaucoup. Anne-Julie, merci beaucoup. Et je n'ai qu'un souhait pour vous, c'est de faire de nouveaux épisodes d'un podcast, que ce soit avec moi ou avec d'autres, pour faire connaître ce que fait votre entreprise, qui est vraiment une entreprise à connaître et qui est même indispensable, notamment pour tous ceux qui pensaient écologie, mais dans le sens positif du terme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si, comme moi, vous avez apprécié ce podcast Génie soit-il, qui nous a permis de découvrir la coopérative Coperl, n'hésitez pas à mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Et pour que le génie de Coperl alimente la matière grise d'un large public, merci de partager cet épisode sur votre réseau social favori, à commencer par le bouche à oreille. Salut !